Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous sommes en ligne avec Audrey Baruki, la CEO et cofondatrice de People for Nature. Bonjour Audrey.
Bonjour Marianne.
People for Nature, l'objectif c'est de promouvoir la protection de l'environnement et la biodiversité. Alors là, j'ai vraiment résumé en une phrase, vous avez sûrement beaucoup plus à dire à propos de People for Nature.
On est parti d'une constatation simple, c'est que je pense pas que ce soit parce que les gens n'aient pas envie de protéger la nature qu'on a de moins en moins de gens qui s'occupent de la nature ou que notre environnement semble en décrépitude. Je pense que c'est parce que les gens ne comprennent pas. On est un peu inondé d'informations, de données, de plein de choses via les médias traditionnels et puis les médias sociaux. Et en fait, donc nous, on part du principe qu'il va falloir simplifier la science, s'assurer que tout le monde ait bien compris en fait ce que les scientifiques et ce que la science nous dit. Et en fait, du moment où on comprend, du moment où notre cerveau comprend, en général, on a envie de passer à l'action, on a envie de faire quelque chose. Et donc de proposer derrière des solutions de conservation citoyenne et de science citoyenne pour aider les gens à passer à l'action.
Justement, donc on va en parler de ça. Le point de départ était donc que, selon vous, il était essentiel d'exister dans la société actuelle. Et avec le docteur Fanny de Busserolles, vous avez monté donc People for Nature, une non-for-profit organization, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Donc en Australie, on dit « charity ». En France, on a des structures un peu différentes ici. Donc, c'est une charity. On est enregistré comme charity environnementale. Et on est également ce qu'on appelle une social enterprise, une entreprise sociale. Donc, on essaye aussi d'utiliser les outils entrepreneuriaux pour créer de l'emploi, créer des opportunités, comme le font les entreprises, en fait, en fin de compte.
Et votre message, au final, c'est de dire que tout le monde peut jouer un rôle dans la préservation?
Mon message, oui, absolument, c'est pas que peut jouer un rôle, c'est que tout le monde se doit de jouer un rôle. L'environnement, ça reste quand même l'habitat de l'espèce humaine. C'est grâce à l'environnement qu'on peut respirer, on peut manger, on peut vivre, on peut apprendre, on peut faire des enfants et la liste continue. Et donc, on se doit absolument de protéger notre habitat et de ne pas le détruire.
Donc ça, c'est le constat. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on met en place vous avez plusieurs collaborations pour mener votre projet à bien.
Oui, on a des collaborations, en l'occurrence, avec des associations et des ONG françaises. Donc, on a un partenariat en place avec la Fresque du Climat, qui a développé une méthodologie pour éduquer les gens sur le changement climatique de manière systémique. Quand on dit systémique, ça veut dire que le changement climatique, en fait, c'est pas vraiment qu'une affaire de CO2. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. L'aspect social, économique, culturel, l'impact sur la biodiversité, etc. Donc, c'est une super méthodologie. C'est un atelier en 3 heures où on regarde la science, mais aussi on fait place aux émotions, à comment on se sent vis-à-vis de la crise climatique. Et ensuite, on passe à l'action et aux solutions en essayant de réfléchir ensemble. On a un partenariat également avec la Fresque de la biodiversité, donc même méthodologie, mais accès biodiversité et services écosystémiques. Et on a un autre partenariat avec une incroyable association française qui s'appelle Humanité et Biodiversité, et donc qui fait le lien entre l'importance de la biodiversité, de la nature et de l'humanité. Parce que, en fait, on n'est pas là vraiment que pour sauver la nature, on est là pour sauver l'humanité. Et comme je l'ai dit, pour s'assurer que, en fait, cet habitat qu'on appelle planète Terre reste vivable, en fait, pour toutes les espèces et la nôtre en particulier.
Et la nôtre aussi, et nos enfants, nos petits-enfants, et encore de très nombreuses générations après eux.
Absolument. Il y a pas mal de cultures indigènes qui parlent de la 7e génération, de faire des choses aujourd'hui pour la 7e génération. Moi, j'habite sur 16 hectares de forêt au nord de Brisbane. Et en général, quand on plante des arbres, on le fait pas pour nous. On le fait pas pour les fruits que nous allons manger, puisqu'on sera peut-être pas là quand cet arbre-là donnera des fruits. On le fait pour la génération d'après. Donc, j'aime bien cette idée de se projeter sur la 7e génération, parce que ça permet de s'élever un petit peu dans l'histoire de notre planète Terre et d'essayer de faire les choses un peu plus en pleine conscience et pas juste pour nous ou pour nos enfants, mais pour toutes les générations qui suivront derrière.
Et parlez-nous de l'événement qui va avoir lieu en novembre prochain, novembre 2025, dans plusieurs villes d'Australie.
Alors, l'événement qui va avoir lieu ici en Australie pour la première fois, ça s'appelle AlterCop. C'est un événement qui va se dérouler en parallèle à la COP qui cette année se tiendra au Brésil, à Belém. AlterCop, c'est une initiative citoyenne portée par des volontaires qui est gratuite et indépendante et surtout qui permet de créer un espace pour les gens, les organisations, les groupes, les communautés qui n'ont pas forcément, qui ne reçoivent pas forcément une invitation à aller à la COP, hein, heureusement que toute la planète ne se rend pas à la COP, ou qui n'ont pas envie d'être à la COP. On a aussi pas mal de gens qui n'ont pas envie de prendre l'avion pour aller discuter de climat. Il y en a de plus en plus. Donc en fait, créer des espaces locaux et des discussions locales sur les thématiques de la COP, sur le climat, la biodiversité et toutes les thématiques de développement durable. Et donc voilà, ça c'est l'initiative AlterCop. On aura ici un gros événement à Brisbane, mais aussi des événements satellites un petit peu partout. Donc Sydney, Melbourne, Adélaïde, Wollongong, Newcastle, Perth, etc. C'est vraiment l'idée de créer plein de groupes de discussion locales portés par des volontaires et bien entendu inclusives où on a plein de gens qui sont représentés, que ce soit on parlait de génération, de vraiment d'avoir tous les âges représentés, mais aussi toutes les communautés. En Australie, 80% des entreprises sont des petites entreprises, donc s'assurer qu'elles aussi aient une voix dans ces débats et de ces discussions sur le climat et sur la transition énergétique et écologique.
Et People for Nature, vous êtes connu, reconnu par les gouvernements?
On travaille avec des agences du gouvernement, des parties du gouvernement, des certains États, donc le Queensland, New South Wales en l'occurrence, et local. On reçoit des subventions locales, que ce soit pareil, encore une fois, on vient de recevoir une subvention de la ville de Newcastle dans New South Wales. On a reçu des subventions de la City of Moreton Bay ici autour de Brisbane. Donc on travaille absolument main dans la main avec les gouvernements, mais ouais, je sais pas. On dit souvent que les ONG sont des entreprises non gouvernementales et moi j'essaye de me l'expliquer en me disant bon ben le gouvernement ne peut pas être partout et donc en fait ces charities en fin de compte c'est des extras
Des antennes.
voilà des antennes exactement des mains supplémentaires des pieds supplémentaires des oreilles supplémentaires au gouvernement pour faire des choses qui sont bonnes pour la société en fin de compte parce que c'est ça le travail des charities c'est de faire des choses qui apportent à tout le monde.
Et au-delà de votre AlterCop en novembre, en parallèle de la COP30 officielle, et puis vous évoquiez tout à l'heure aussi la fresque du climat, est-ce que vous avez d'autres projets à court, moyen terme pour People for Nature?
Oui, alors en fait, on a des événements pratiquement toutes les semaines un peu autour de l'Australie. Donc, on offre des fresques du climat au grand public dans plein de villes d'Australie, des fresques de la biodiversité. Mais on a également deux grosses initiatives qu'on porte. La première qui a été développée en s'inspirant d'un concept de humanité biodiversité, l'ONG dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est Nature Oasis qui est venu donc de France, qui en France s'appelle Oasis Nature et qui en fait essayait d'inspirer les gens de protéger la biodiversité dans leur jardin, sur leur balcon, dans leurs espaces collectifs. Donc ça c'est une première initiative qui est assez importante pour nous et qu'on porte ici en Australie en s'adaptant bien entendu à la biodiversité locale. Et la deuxième initiative c'est une initiative de science citoyenne autour de la conservation sur le koala. Donc le koala, on le sait, est sur une trajectoire d'extinction. Il est menacé absolument partout en Australie, à quelques exceptions près. Et donc en fait, nous, on propose un projet basé sur de l'ADN environnemental, où on récolte les crottes de koala. On analyse l'ADN environnemental de ces crottes-là pour nous donner une bonne idée des populations de koalas qui nous restent. Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce qu'elles se déplacent? Est-ce qu'il faut faire des corridors pour les aider à se déplacer, etc. Ça rentre un petit peu, si vous voulez, dans ces collaborations qu'on a avec la science et les scientifiques, mais où on engage les citoyens pour ramasser les crottes et pour nous aider en fait à faire ces rapports-là. Et en fait, l'idée de cette science citoyenne, c'est pour aider les décisions de conservation sur le koala en Australie. Donc vraiment un sujet qui est important et qui pour nous ne devrait pas être juste dans les mains du gouvernement et des scientifiques, mais dans les mains de tous les citoyens. Parce que si on perd le koala, je pense que ça touchera bien plus que le gouvernement, les entreprises et les
Bien sûr.
scientifiques.
Oui, donc des projets essentiels et admirables et avec toujours ce maître mot que tout le monde peut, tout le monde doit jouer un rôle dans la préservation. Audrey Baruki, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et puis merci à tous ceux qui ont écouté. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site internet ou à venir à un de nos ateliers et faire partie de notre communauté. Merci beaucoup, Marianne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.